Adriane et Meredith. Jeudi 24 juin 2021. Final, Princeton University, New Jersey. Devant le département de mathématiques de Princeton, un élégant building de verre et de briques rougeâtres au modernisme déjà ancien, les étudiants ont dressé des tables à tréteaux, installé un barnum blanc à chapiteaux pointus et allumé le barbecue. On célèbre avec force saucisse la médaille Fields de Tanizaki et le probabiliste Adrian Miller se rend bien compte qu'il regarde sa collègue Meredith Harper avec un sourire crispé qui alterne avec un air de sentimentalité idiote. La première fois qu'Adrian avait vu Meredith, il l'avait trouvée franchement laide. Une telle impression est passagère, les meilleurs auteurs le lui auraient confirmé. 2 mois avaient passé depuis l'arrivée de la topologiste britannique, et désormais Meredith, avec ses jambes trop minces et ses cheveux bruns trop sages, son nez trop long et ses yeux trop noirs, Meredith, la toujours distante, l'attire de façon déraisonnable. Pour se donner le courage de l'aborder, Adrian a bu une bière puis une autre. À jeun, il peut vaguement faire illusion. Meredith lui a dit un jour, pas méchamment, qu'il avait un physique à la Ryan Gosling dans une version dégradée, et un peu chauve. Mais là, il ressemble seulement à un type bourré. Il estime à 27% ses chances de réussite. Elles auraient pu atteindre 40% s'il n'empestait pas autant l'alcool, mais d'un autre côté, l'ivresse réduira d'environ 60% la souffrance née d'un refus. Le probabiliste en a conclu qu'avec tant de chances de se ramasser, autant être ivre. Le plus clair de la vie d'Adrian, c'est passé à faire des probabilités, et de temps à autre à écouter Bach et les Beach Boys. Il n'a pas construit de famille. Aucun enfant ne porte son nom, à moins de promouvoir au rang de progéniture un obscur théorème. Meredith est sa première émotion amoureuse depuis fort longtemps. Et en l'instant, il se dit même avec une certaine emphase, depuis toujours. Elle est seule sous le grand acacia, gracieuse dans une robe longue en coton noir. Il tâche de marcher à peu près droit sur elle. « J'ai bu », dit-il d'emblée. « Je confirme », répond Meredith, qui a effectivement trouvé sa démarche bien peu assurée. « Et je pue la bière, pardon. Je ne saurais trop vous dire, Adrian, car moi aussi. » Elle exhibe la bouteille vide qu'elle tient à la main, se penche dans un geste délicieusement imprécis et lui souffle au nez une haleine tiède et parfumée de houblon. « Respirez, Adrian. C'est le parfum de la contrariété et de l'ennui. » Car Meredith s'ennuie à Princeton. La londonienne n'aime pas cette ville de province où le restaurant japonais, celui qui reste ouvert tard, fait clignoter des lampes dès 9h30 pour signifier qu'il va fermer. Ce campus qui tente de ressembler à Poudlard avec ses donjons et ses beffrois moyenâgeux du 19e. Elle ne s'habitue pas à ces étudiants qui se croient sortis tout droit de la cuisse de Jupiter et qui, sous prétexte que leurs parents ont déboursé 60 000 $ de frais de scolarité, lui mailent à toute heure des questions triviales sur le théorème de non-prolongement de Gromov, questions auxquelles ils exigent une réponse immédiate. Alors que, zut, quoi, il leur suffirait de consulter sur Wikipédia l'entrée concernée fort bien rédigée. Elle exècre ses enseignants qui la regardent de haut. St. Andrews, son université d'origine, ne pouvait évidemment égaler Princeton, puisque eux y sont à Princeton, CQFD. Adrian n'est pas comme ça. Et s'il était un peu moins pâteux, il y a longtemps qu'il aurait compris qu'elle l'aime bien. Pour un probabiliste, c'est un rêveur. Il a des yeux verts, qui le feraient prendre pour un théoricien des nombres, même s'il porte les cheveux aussi longs qu'un théoricien des jeux. De petites lunettes d'acier trotskisantes, de logiciens, et de vieux t-shirts troués d'algébristes. Celui qu'il arbore en cet instant est particulièrement avachi et ridicule. Elle le devine brillant. Si c'était un mauvais, il serait depuis longtemps parti dans la finance. Brillant, mais timide. Et lorsqu'il bredouille, « Meredith, je voudrais vous demander, vous travaillez bien sur les espaces localement symétriques et sur... » Elle le coupe. « Non, Adrian, pas du tout. Là, je travaille à me saouler consciencieusement. Je suis ravi de constater que Tanizaki et ce macho de Brenner à Stanford ont reçu leurs fields sur des questions d'interface topologie-géométrie algébrique, domaine où j'ai co-signé quasiment tous leurs articles, quand je ne les ai pas écrits. Par ailleurs, j'habite à Trenton, un bungalow pourri où l'eau est froide un jour et tiédasse l'autre. Ma Toyota hybride est en panne depuis 6 jours, un truc de batterie, paraît. J'ai rompu avec l'homme de ma vie, croyais-je, en tout cas, voici 1 an, et cela fait donc, laissez-moi calculer, 4 mois que je n'ai pas fait l'amour. On est fin juin. Ah non, 6 mois. Ce n'était même pas terrible. Et vous, Adrian, tout va bien? La maison, la voiture, le sexe? La conversation vient à peine de débuter qu'elle prend pour Adrian une tournure déstabilisante. Il articule du mieux qu'il peut. Ma voiture n'est pas en panne, j'ai de l'eau chaude. Alors pourquoi vous traînez-vous toujours cette allure de cocker triste qui se noie dans son écuelle? Je crois que je vais finir cette bière et en boire une autre. Si vous voulez sombrer plus vite dans le coma, Meredith, il y a de la tequila salturing dans l'armoire derrière les feutres. Excellente idée. Meredith pose sa bouteille, zigzague sur la pelouse jusqu'à la porte du hall qu'elle pousse maladroitement. Adrian la suit, un peu inquiet, en tentant de ne pas trop regarder ses fesses tandis qu'elle monte vivement l'escalier. Elle s'arrête devant la porte de la salle, s'adosse au mur. Je suis britannique, Adrian. Je vous préviens, si vous tentez de me violer, je me laisserai faire et je penserai à la reine. Vous avez trop bu, Meredith. Et vous, pas assez. Meredith tourne la poignée de la salle et y entre en tournoyant, manque de s'étaler de tout son long et s'assied sur une chaise prise de vertige. Elle regarde autour d'elle. Où est cette tequila? Je ne sais pas si c'est raisonnable. Asseyez-vous à côté de moi et ne me parlez pas des processus stochastiques, si vous saviez comme je m'en fous, là. Adrian obéit, la regarde désarçonnée. Oh, et puis zut, embrassez-moi, Adrian. Vous en mourrez d'envie. Et là, tout de suite, ça m'est bien égal que vous embrassiez comme un manche. Meredith, je vous assure. Pourtant, vous me plaisez, mais je... Oui, bon, ce n'est pas très romantique, mais quoi? On en rira plus tard avec nos enfants. Embrassez-moi ou je me mets à pleurer. Ou à crier. Ah, au secours! Meredith, s'il vous plaît, dit Adrian, soudain très inquiet. Ne plaisantez pas avec ça. Ah, je vous tiens. Mais non, je plaisante. Pourquoi vous, les hommes, quand une femme prend l'initiative, perdez-vous tous vos moyens? Meredith l'attire soudain à lui et plaque ses lèvres sur les siennes. Elles ont un goût de fraise. Elle ferme les yeux et ils restent ainsi l'un contre l'autre quelques longs instants sans même oser s'embrasser. Lorsque la poche intérieure de la veste d'Adrian vibre et sonne bruyamment. D'un coup, il s'écarte d'une Meredith aussi étourdie que lui, puis extrait un smartphone gris métal qu'il contemple avec stupéfaction. « C'est votre femme ?» demande aussitôt Meredith. Elle s'en moquerait, en l'occurrence, complètement. « Je suis pas marié. » Après 3 sonneries, le smartphone se tait soudain. Reste 5 secondes silencieux avant de sonner et vibrer de nouveau. Ce coup-ci, l'appelant laisse sonner une seule fois et raccroche. Adrian ne peut quitter le téléphone des yeux. « Maintenant? Vraiment? » « Si ce n'est pas votre femme, c'est quelqu'un de très insistant. »« Merde, merde! » « Désolé, je dois à tout prix... Meredith, je dois... » Il se précipite dehors, court dans le couloir du département. 10 secondes ont passé et le téléphone sonne à nouveau. 3 sonneries, 1 sonnerie, 3 sonneries. C'est le code convenu. Il décroche. Une voix d'homme, à la fois assurée et atonale, militaire. « Professeur Adrian Miller ?»« Oui, » répond-il en hésitant. « Toto, j'ai l'impression... » La voix attend. Attend encore. Et Miller répond, d'une voix blanche, que nous ne sommes plus au Kansas. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas. N'importe quoi. Adrian ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Au gosse à l'humour potache qu'il était voici 20 ans et qui a choisi cette réplique tronquée du magicien d'Oz, sans imaginer qu'un jour il aurait à la compléter pour confirmer son identité. Depuis 20 ans aussi, il possède ce smartphone qu'on lui change régulièrement. Ce smartphone qui doit, pour $1000 mensuels, être en permanence allumé, ne jamais le quitter, afin qu'Adrian puisse, en toutes circonstances, absolument toutes, la preuve, répondre et être aussitôt disponible. Il n'avait encore jamais sonné. « Adrian, crie Meredith, revenez m'embrasser même si c'est votre femme. Veuillez vous tenir prêt, professeur Miller, poursuit la voix. Un véhicule de police arrive devant Fine Hall, dans la minute qui vient, et il vous emmènera au point de contact.
Devant Fine Hall? Vous savez où je suis?
Bien sûr, professeur Miller. Vous êtes géolocalisé à 3 mètres près. Quand vous serez en route, nous vous rappellerons pour vous mettre en relation avec le centre opérationnel.
Adrian! Hurle Meredith de la salle Turing. Vous faites chier, Adrian! Vous faites vraiment tous chier!
Adrian court à la porte. Meredith n'a pas bougé. Elle est figée sur sa chaise, les cheveux ébouriffés, l'air furieuse. Je suis désolé, Meredith, c'est très important. Je vous expliquerai. Adrian descend 4 à 4 l'escalier. Meredith crie une phrase où il est question de probabiliste ensanglanté et d'un voyage vers l'enfer qu'il est prié d'accomplir. Mais il est déjà dans le hall. Pour comprendre pourquoi Adrian Miller doit répondre sur un smartphone blindé anthracite ce 24 juin 2021, il faut revenir au 10 septembre 2001, jour où, alors qu'il est le plus jeune postdoc de l'équipe de probabilistes du professeur Robert Pozzi, il fête ses 20 ans au Massachusetts Institute of Technology. Le lendemain, il y aura un cas de vache folle au Japon. Les déclarations politiques après l'attentat suicide contre le commandant Massoud, perpétré par 2 membres tunisiens d'Al-Qaïda, et l'annonce du retour de Michael Jordan chez les Wizards de Washington. Mais surtout, ce sera le premier jour de travail de Ben Sliney. Il vient de prendre le poste de directeur des opérations de la FAA, de la Federal Aviation Administration. 2 heures après le café et les beignets du pot de bienvenue, il clouera au sol 4 200 avions. Une décision solitaire et sans précédent. Il y a des jours comme ça. Le 11 septembre, à 8h14, l'un des contrôleurs de Boston s'inquiète de voir le transpondeur de l'appareil American Airlines 11 coupé. 6 minutes plus tard, une hôtesse à bord de l'avion appelle le numéro qu'elle peut, c'est-à-dire celui des réservations d'American Airlines. Elle prévient d'un détournement, de plusieurs meurtres en cabine. Le temps que l'on vérifie son identité, il est 8h25, et un superviseur avertit l'Air Traffic Control. Ben Sliney et les contrôleurs aériens découvrent alors, à l'éco-radar, que l'American Airlines 11 se dirige plein sud vers New York. La règle pour un détournement exige, oublions le manuel qui voudrait que le pilote, ici poignardé, ait entré le code 7500 sur le transpondeur, d'avertir le QG de l'aviation civile. Au QG, un coordinateur spécial détournement doit alors contacter un service du Pentagone, qui doit en référer au bureau du secrétaire de la Défense, lequel avertit le ministre, dont la décision doit redescendre tout au long de la même chaîne. Alors, enfin, les responsables du Centre national de commandement militaire peuvent faire décoller des chasseurs pour intercepter l'avion. Et comme depuis la guerre froide, le nombre de bases aériennes prêtes à intervenir est tombé de 26 à 7, les 2 seules bases restantes sur la côte Est sont celles d'Otis, près de Boston, et celles de Langley, siège de la CIA, près de Washington. Tout cela prend tellement de temps que le 11 septembre 2001, c'est le superviseur de Boston lui-même qui, dans l'urgence, va appeler la base militaire d'Otis. Comme ce n'était pas à lui de le faire, Otis exige qu'il s'adresse au commandement militaire régional nord-est, à Rome, dans l'état de New York. Il appelle, on lui signale une fois de plus qu'il ne respecte pas la procédure. Néanmoins, convaincu et agissant lui aussi sans autorisation de la défense, le colonel Robert Marr demande à la base d'Otis de se préparer à faire décoller les chasseurs. Bien avant la conclusion officielle de la 9-11 Commission, le Pentagone sait que ce jour-là, tout dans la chaîne de décision a dysfonctionné. Il crée en interne un groupe de travail dont la tâche sera de proposer un autre processus en situation de crise. Et ce groupe sous-traite tout ce qui touche à la formalisation au département de mathématiques appliquées du Massachusetts Institute of Technology. C'est là qu'apparaît le nom d'Adrian Miller. Adrian est alors un très jeune probabiliste dans l'équipe de Pozzi, le chef des maths applis du MIT. Adrian vient de soutenir, à l'âge de 20 ans, une thèse où il est question de chaînes de Markov, de notation de Kendall. Pour aller vite, il s'intéresse aux files d'attente. Il aime particulièrement la loi de Little, qui dit que le nombre moyen d'unités dans un système stable est égal à leur fréquence moyenne d'arrivée, multipliée par le temps qu'elles passent dans le système. Mais passons. Parce que tout le monde au labo est très occupé, que les contrats avec le département de la Défense agacent profondément Pozzi, c'est à Adrian, en forme de bizutage, qu'est confié le soin de modéliser les blocages et de trouver comment réduire le nombre d'étapes et les délais d'intervention. Adrian sollicite l'aide de Tina Wong, la très intelligente thésarde de Pozzi, afin qu'elle l'assiste sur la partie théorie des graphes, qui lui échappe quelque peu. Ils travaillent tard, mangent vite et mal, dorment peu, disent tout le mal qu'ils pensent du Department of Defense, et quand ils se sentent incapables de quoi que ce soit, ils prennent la vieille Honda d'Adrian et vont se faire en pleine nuit un bowling au Lucky Strike Social Boston, qui ne ferme jamais. Une nuit, après une dispute sur l'hypothèse ergodique et la distribution stationnaire, ils vivent une péripétie plus sexuelle qu'érotique. Un bon souvenir malgré tout. Surtout Adrian et Tina recensent toutes les variables qui peuvent affecter le trafic aérien et leur attribuent des valeurs statistiques. Ils spécifient tout ce qui peut causer une catastrophe, voire simplement perturber le flux, et surpassent les attentes du Pentagone. Leur modèle prend absolument tout en compte. La chaîne d'événements, le mode de communication, l'incompréhension linguistique, la différence d'unité, pied, mètre, l'erreur de pilotage, la panne mécanique, le problème technique, la météo, le sabotage, le détournement, le piratage informatique, l'aiguillage fautif, le défaut de maintenance et tant d'autres choses. Les deux chercheurs identifient 37 protocoles de base avec chaque fois entre 7 et 20 chemins contingents, soit près de 500 situations de base et autant de réponses. Quand Richard Reid, en décembre 2001, réussit à franchir le contrôle de sécurité avec des explosifs dissimulés dans ses semelles, on a affaire à une variante du protocole 12A. L'accident du Birmingham-Malaga où le pare-brise du cockpit explose, c'est un des exemples du protocole 7K. L'Airbus qui sort de la piste à l'atterrissage à Halifax en raison de la neige. 4F. Le volcan islandais qui crache ses cendres et interdit tout décollage. 13E. Le pilote dépressif de la Germanwings qui jette son avion contre la montagne. 25D. Après 5 mois de travail, ils consignent leurs recommandations dans un mémorandum secret défense de quelques 1500 pages sobrement intitulé « Trafic aérien civil, diagnostic de crise, optimisation de la chaîne de décision et protocole de riposte sécurité ». Et bien qu'ils aient 41 ans à eux deux, ou peut-être parce que, ils co-signent « Professeur T. Wong » et « Dr. A. Miller » et « Ali I. » Département de mathématiques appliquées, département de théorie des graphes, département de probabilité, Massachusetts Institute of Technology. Dans Wong and Miller and Ali E, Ali E est le nom du hamster du labo. De vrais gosses. Rien ne leur échappe. Le Pentagone leur aurait-il demandé de présenter toutes les réponses possibles à un pile ou face qu'ils en auraient envisagé 3. Pile, face, et le cas rare où la pièce déciderait de s'immobiliser sur sa tranche à la verticale. Mais 10 jours après la remise du rapport en avril 2002, le département de la Défense leur renvoie avec une question inscrite au feutre rouge « Et si nous sommes confrontés à un cas n'obéissant à aucune situation étudiée ?» Tina hausse les yeux au ciel. « Va pour l'hypothèse où la pièce lancée resterait suspendue en l'air. » Ils ajoutent en 5 jours un ultime protocole pour ce dernier cas, n'obéissant à aucune situation étudiée, alors que partout ailleurs, Tina et Adrian ont recommandé qu'un responsable unique, civil ou militaire, supervise le protocole. La mathématicienne décide qu'en raison du caractère irrationnel des événements justifiant un tel protocole, celui-ci sera confié à un tandem de scientifiques. Et elle écrit son nom et celui d'Adrian Miller. Elle recommande de les équiper de téléphones portables blindés dédiés à ce protocole qu'ils doivent porter en permanence sans pouvoir les éteindre. Et comme Adrian Miller voue un culte au livre de Douglas Adam, le guide du voyageur galactique, et à sa grande question sur la vie, l'univers et le reste, question à laquelle Pensée Profonde, deuxième plus grand ordinateur de tous les temps, répond après 7,5 millions d'années de calcul, 42, ce sera le protocole 42. Pour faire sérieux ou pour s'amuser, ou parce que faire sérieux l'amuse, Adrian a ajouté une phrase séquence de code d'initialisation. 1. Opérateur. Toto, j'ai l'impression. 2. Responsable. Que nous ne sommes plus au Kansas. Lorsqu'Adrian sort du laboratoire, un véhicule de police l'attend déjà juste devant le barbecue où les saucisses rôtissent joyeusement. L'officier le salue comme s'il était un général 4 étoiles et les regards des collègues se braquent vers Adrian. Lui rend au policier un salut gauche et approximatif et monte à l'arrière, non sans se cogner au cadre du toit. La voiture démarre, sirène hurlante, gyrophare allumé. Adrian roule loin du sexe avec Meredith et vers l'inconnu. Quelqu'un, quelque part dans la galaxie, a donc lancé une pièce, et celle-ci est vraiment restée suspendue en l'air.